France Inter.
J'appartiens à une génération qui n'en est pas une, qui n'a pas eu le sens du collectif et dont les membres se sont reconnus à ce même signe invisible et mystérieux et pourtant patent, l'impuissance à avoir un « nous ». J'appartiens à une non-génération indifférente à l'histoire collective de ceux qui l'ont précédée. Je suis le membre d'un agrégat d'individus dont le destin et la chance aussi est d'avoir été occupés par leur seul bien-être intime. Mishka Assayas est ce soir notre invité. Je viens de lire un court extrait d'un de ses livres intitulé « Faute d'identité ». Il est invité ce soir parce que nous l'aimons, parce que nous aimons travailler avec lui, parce qu'il est aussi l'auteur d'un magnifique album consacré à Woodstock et en compagnie de Maud Berthomier, auteur d'un livre incroyable et très littéraire qui s'intitule « Encore plus de bruit, l'âge d'or du journaliste rock en Amérique par ceux qui l'ont inventé ». Nous allons parler de rock, mais aussi de l'ami Mishka que nous connaissons très mal. Et on va commencer en musique comme chaque soir. Et pour vous, Mishka, ce soir, Neil Young. Merci. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? What is the color? You are a man, you understand. You pick me up and you lay me down again. You make the rules. You say what's fair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue and so is the sea. What is the color when black is burned? I am a child, I last a while. You can't conceive of the pleasure. Ce titre pour vous, Mishka, pour évoquer un très beau livre que vous avez écrit à propos de la relation avec votre fils qui à un moment s'était éloigné de vous et avec qui vous avez retrouvé le lien en écoutant de la musique et en faisant de la musique, oui, avec lui, et notamment ce titre de Neil Young.
Oui, c'est, ben c'est, vous savez, je suis très démuni quand je suis de l'autre côté, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Mais c'est une chanson qui m'émeut beaucoup parce qu'en fait, j'avais choisi pour l'enterrement d'un ami qui adorait Neil Young et qui avait gardé cette part d'enfance en lui. Il s'appelait Laurent Perrin, il était cinéaste, il était très lié aussi à mon frère Olivier. C'était un peu comme notre autre frère. Voilà.
Et Neil Young que vous avez bien connu, Neil Young qui vous accompagne depuis longtemps. Parlons aussi de votre père. Vous, oui, appelez Mishka, ce qui, oui, est un étrange prénom. Ce n'est pas votre vrai prénom. Vous appelez Michel, c'est plus,
oui,
banal.
Oui, c'est l'état civil, mais on m'a toujours appelé Mishka dans ma famille parce que ma mère était d'origine hongroise et elle avait choisi ce prénom de Mishka, qu'elle prononçait Mishka, parce que elle avait beaucoup d'admiration pour un homme d'État hongrois qui était un aristocrate, famille Károly, qui avait été président de la République juste après la Seconde Guerre mondiale et qui était un aristocrate qui avait donné ses terres aux paysans qui y travaillaient. Et c'était un homme qui a hélas été écarté au moment où les communistes ont pris le pouvoir.
Votre père ne s'appelait pas Assayas?
Il s'appelait tout à fait Assayas, mais il avait...
Il n'était pas connu en tant que
non,
Assayas.
Non, il avait pris un pseudonyme qui était celui de Jacques Rémy. Il travaillait dans le cinéma. Et c'est un pseudonyme qu'il avait pris parce que, comme il travaillait comme assistant réalisateur à Paris dans les années 30, quelqu'un lui avait dit que le nom de Assaya c'était trop métèque, trop difficile à retenir, et qu'il fallait un nom bien français, plus simple, voilà.
Et un jour, alors que vous êtes adulte, vous devez refaire votre passeport, et alors là, les ennuis commencent.
Oui,
on vous demande des preuves de votre identité.
Oui, alors ça.
Et de votre appartenance à la nation française.
Oui, c'est une chose tout à fait traumatisante que j'ai vécue. Enfin, j'en ris maintenant, j'en riais pas tellement à l'époque. C'était il y a maintenant une dizaine d'années. Oui, vous savez, il y avait eu d'abord les lois Pasqua dans les années 90, et puis ça s'est qui touchait aux cartes d'identité nationale, et ensuite ça s'est étendu au passeport. C'est-à-dire que le passeport est devenu un titre d'état civil. Et il fallait en fait justifier de l'acquisition de sa nationalité française au cas où ses parents n'étaient pas nés en France. Ce qui était le cas des miens, puisque mon père était, d'une manière tout à fait accidentelle, c'était lié à l'activité de mon grand-père, né à Istanbul, qui s'appelait alors Constantinople. Quant à ma mère, elle était née à Budapest. Et le fonctionnaire de police que j'étais allé voir pour faire renouveler mes papiers, puisque moi je suis né à Paris, m'a dit, a tiqué quand il a vu, il a dit « Ah, maintenant il y a de nouvelles règles, donc il faut que vous nous fournissiez des preuves de l'acquisition de la nationalité française de vos parents. » Et là, ça a été un engrenage cauchemardesque, parce qu'en fait, mon père était français, il avait bénéficié d'une naturalisation grâce à un décret collectif de 1932 qui faisait que les protégés français, enfin c'est une longue histoire, c'était des gens qui, en l'occurrence à Salonique, enfin dans le Moyen-Orient en général, là où la France avait ce qu'on appelait des échelles, des comptoirs, eh bien la France avait fait bénéficier certaines personnes qui avaient rendu des services à l'armée française, à l'État français, d'une éducation française. Ils avaient le droit à aller au lycée, etc. On les appelait des protégés. Et ces protégés avaient été massivement naturalisés en 1932, mais malheureusement, je n'avais pas de documents individuels concernant mon père. Et donc, j'ai passé une année à attendre de savoir si j'allais avoir le droit d'avoir à nouveau un passeport. On m'a donné un passeport provisoire, et puis un an après, grâce à un document qu'on a retrouvé avec mon frère en fouillant dans des vieux cartons, on est arrivé à trouver un document concernant ma mère. Enfin, ça a été vraiment un labyrinthe, cette affaire.
Vous êtes autant le fils de votre père que celui de votre mère, Mishka ?
Oui. Pourquoi cette question ?
Parce que quand on lit ce livre, qui est d'ailleurs assez bouleversant, qui s'intitule « Faute d'identité »,
oui,
on se dit que l'histoire de votre père vous a longtemps poursuivi. Il faut dire,
oui,
qu'il a une histoire extrêmement romanesque,
oui,
il faut dire qu'il a été résistant,
oui,
qu'il a été extrêmement courageux pendant la guerre,
oui,
que quand il est tombé malade, ça a duré très longtemps, et, oui, manifestement, ce sont des années de souffrance pour vous,
oui,
et que votre mère a vécu très longtemps,
oui,
et que vous l'avez accompagnée jusqu'au bout.
Oui. Écoutez, ce sont des choses très intimes, c'est pas tellement facile pour moi d'en parler, mais bon, j'ai écrit, alors évidemment, maintenant...
Ça rejoint l'histoire de la France. Je vous pose pas des questions indiscrètes.
Non, non, je comprends parfaitement. Ah oui, mais vous savez,
métissée où certains citoyens ne se sentent pas appartenir pleinement
à cette
nation parce qu'on les a marginalisés.
Oui, ma mère était réfugiée. Elle était venue de Hongrie. Elle avait tout perdu. Et elle a fait preuve d'un très grand courage parce qu'elle a fait elle a dû gagner sa vie et c'était pas simple. Et en fait, j'ai une cousine qui vit à Budapest et qui dit ta mère n'était pas française, elle était parisienne. Et c'est très vrai. C'est-à-dire que et mon père et ma mère avaient une admiration infinie pour la culture française, pour ce que représentait Paris, pour son rayonnement. Enfin, il y avait cette espèce de, je sais pas comment le décrire, de l'impression de que ça devait se mériter, quoi, d'une certaine façon. Voilà, enfin, que je sais pas si c'est comme ça qu'ils l'auraient dit, je veux pas parler en leur nom, mais certainement, vous savez, je pense à une chose, j'ai jamais écrite, c'est que ma mère avait toujours des problèmes avec l'administration. Donc elle par exemple le syndic pour son appartement, elle vivait à Paris. Donc elle avait des fuites d'eau, des problèmes de plomberie, etc. Et elle m'envoyait, elle écrivait des lettres et elle était complexée à l'idée de faire une faute d'orthographe ou de syntaxe. Donc elle me lisait pendant mais une demi-heure, j'en pouvais plus. Vous savez, tout la lettre, elle sans mêler les pinceaux dans les formules empoulées qu'elle adressait au syndic, au gérant, enfin je sais pas, enfin c'était des
trucs. C'est normal, mère s'adressait à son fils normalien.
Oui oui.
Normal sup, il faut bien que ça serve à quelque chose.
Oui oui, voilà, c'est ça. Oui,
vous êtes écrivain depuis votre plus jeune âge. Vous avez commencé à publier des ouvrages aux éditions Gallimard,
c'est pas rien,
c'était la voie royale. Vous étiez tombé en littérature, vous aviez toutes les cartes, pourquoi avoir sombré, là j'emploie un vocabulaire un peu proche de celui de votre mère, pourquoi avoir sombré corps et âme dans le rock.
Mais j'ai jamais considéré que j'ai avoir fauté et avoir j'ai peut-être pas suivi un chemin académique et traditionnel et conventionnel, mais c'était par sincérité envers mes propres affects, ce que je ressentais. Vous savez, j'ai toujours trouvé que il y a une certaine voix conventionnelle et pas très excitante et pas très vivante dans la littérature en France. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions des mêmes choses. Il y a cette espèce sentiment d'écrasement face à la culture de ceux qui vous ont précédé, des livres qu'on écrit sur d'autres écrivains, c'est un commentaire à l'infini. Et je trouve que dans le rock, il y avait quelque chose qui pour moi était neuf et qui était une aventure, où il y avait un risque. Et de toute façon, je considère que j'ai pas du tout dévié de ma voie d'écrivain. Bon, bien sûr, j'aurais pu publier plus, etc. Mais j'ai publié des livres très littéraires. Mais j'ai jamais compris pourquoi il fallait séparer ma passion pour le rock de ma passion pour le fait d'écrire. Enfin, d'autant que les livres que j'ai faits sur le rock sont pour moi des livres, enfin, si je peux me permettre, des livres d'écrivain. Le Dictionnaire du rock est un livre d'encyclopédiste où j'ai été très attentif en ce qui concerne mes propres articles et ceux de mes collaborateurs à la façon dont c'était écrit. Et puis j'ai écrit beaucoup sur la musique, j'y accordais exactement le même soin qu'à des articles que je pouvais donner à Libération sur Louis Ferdinand Céline ou sur Paul Morand. Enfin bon, moi je cite des gens évidemment un peu sulfureux, mais j'ai aussi écrit sur je sais plus, moi j'ai oublié, mais plein.
Et puis il faut dire aussi que avec vous, pas seulement avec vous, mais aussi grâce à vous, eh ben, la culture du rock est une culture légitime. C'est une culture qui a ses propres codes, ses propres rituels, ses propres décryptages. C'est une intensité de vie.
Oui.
Et ça, c'est un art majeur, le rock, qui a charrié avec lui les plus grands des écrivains, comme vous le montrez d'ailleurs Maud Berthommier dans cet ouvrage qui vient de paraître et qui s'intitule « Encore plus de bruit », où vous restituez, vous qui êtes une jeune chercheuse, eh bien les journalistes du rock qui, très jeunes, ont décidé, exactement comme Mishka l'a fait quand il était jeune, enfin quand il était très jeune, il est toujours resté jeune, mais ils ont décidé de ne pas abdiquer leur carrière d'écrivain, mais ils ont décidé de consacrer énormément de temps à couvrir ce qu'ils entendaient dans cette cité magique qu'était le rock. Pourquoi, à votre avis ?
Alors,
et certains sont devenus très connus dans l'histoire de la littérature américaine.
Tout à fait. Mais d'abord, pour rebondir sur ce que disait Mishka, on s'est rencontrés une fois, Mishka, il y a 2 ans, je crois. Et vous m'aviez dit une chose.
Tu
m'avais dit, voilà,
elle était inquiète, Maud, elle savait pas si on avait le droit ou pas.
Tu m'avais dit une chose très juste, je crois. Tu disais qu'en France, voilà, les références culturelles au rock ne sont pas universelles. Et de ce fait, comme si elles devaient nécessairement être réservées à un public spécialisé. Ce qui n'est pas vrai, effectivement. Je crois, le rock fait partie de l'histoire de notre histoire à tous, je crois. Et aux États-Unis particulièrement, où il y a le nom de writer qui recouvre à la fois aussi bien les journalistes que les écrivains. Et donc, il n'y a pas de répartition, de scission à faire entre la littérature et le journalisme, la littérature et la musique, par exemple, et le rock en particulier.
Et même la philosophie, c'est ce que j'ai appris dans votre ouvrage, Monique Berthomier. C'est-à-dire que beaucoup de critiques de rock qui vont devenir des grands écrivains sont issus du monde de la philosophie. Et c'est parce qu'ils sont philosophes qui veulent couvrir le rock. Ce que ça veut dire un concert, ce que ça veut dire cette communauté qui s'installe, ce que ça veut dire cette intensité qui s'échange, etc.
Oui, particulièrement avec Richard Melzer qui avait fait des études de philosophie. Et cette idée de risque, tu disais, Mishka, je crois, est très belle et très juste. Et aux États-Unis, c'était aussi une histoire de nécessité. Voilà, il était nécessaire de parler de cette musique parce qu'elle avait énormément d'importance.
Alors, pas parler au passé. Le rock continue à exister. Je voudrais faire un dernier petit détour biographique avant de parler de cette nouvelle culture du rock qui s'est inaugurée, je crois, à Woodstock. Ça a été vraiment un basculement, un basculement de civilisation et de vivre ensemble aussi. Je voudrais faire un petit détour encore biographique avec vous, Mishka, parce que j'ai reçu, comme d'autres personnes, mais le livre est en librairie, je crois, depuis 2 jours, un livre signé de votre frère Olivier Assayas et d'un écrivain qui s'appelle Adrien Bosque. Et qui raconte l'histoire de votre père. Votre père qui s'appelait donc à ce moment-là Rémi.
Oui.
Et va s'ouvrir dans exactement 8 jours, aux rencontres d'Arles de la photographie, une exposition photographique qui accompagne cet ouvrage, qui s'intitule « Un voyage, Marcel Rio, 1941 ». C'était donc sur un bateau qui s'appelait le capitaine Paul Lemerle. Que des exilés, pas des moindres, André Breton, Claude Lévi-Strauss, Victor Serge, Wilfredo Lam, Anna Segers et beaucoup d'autres, et votre père, ils ont pris ce bateau qui est parti de Marseille et qui est arrivé à Fort-de-France en 1941 pour pouvoir essayer de s'enfuir parce qu'ils étaient poursuivi par les nazis.
Oui.
Vous saviez, vous connaissiez cette histoire de votre père?
Évidemment, j'ai perdu mon père assez jeune, j'avais 23 ans, mais je le connaissais, il nous l'avait raconté. Mais ce qu'a fait Olivier est tout à fait particulier et assez extraordinaire, c'est qu'en fait, il a fait un travail presque d'enquêteur, de juge d'instruction, c'est-à-dire qu'en fait, il a retrouvé des photos qui avaient été prises sur le bateau et il a essayé de comprendre qui les avait prises, qui étaient les personnages qu'on y voyait, quel avait été exactement l'itinéraire de notre père, parce que tout ça était très confus. C'était des récits, vous savez, un peu comme dans les livres de Modiano, avec des gens, le consul polonais, on ne sait pas qui c'est, des femmes à côté de... Là, ils viennent découvrir, il y a juste 2 jours, l'identité d'une femme sur une photo prise avec Victor Serge. En fait, on a appris que c'était une poétesse d'origine anglaise, qui s'appelait Leonora Carrington.
Je l'adore,
Et bien voilà,
sont traduits en français, c'est une très grande écrivaine.
Voilà, elle est morte dans une misère noire à Mexico à un âge très avancé. Moi, honnêtement, pour être, je connaissais pas son existence, mais
je vais vous offrir des livres d'elle.
Merci. Alors oui, mais mon frère m'a dit c'est Anne Wiazemski qui lui en avait parlé et que elle avait été éditée chez Losfeld.
Ouais. Vous écoutez Very Good Rock, vous écoutez quoi?
L'Or Bleu.
Et le choix musical de Mishka, c'est, étant donné que j'ai un très mauvais accent anglais, je vais quand même profiter de votre présence puissiez faire l'annonce avec votre So Perfect English.
Freedom de Richie Havens, c'est ça? Eh ben voilà.
Non, c'est Sly.
Ah, c'est Sly and the Family Stone. Excusez-moi, parce que
mais c'est Lilian, notre réalisateur qui change d'avis tout le temps.
Et pourquoi pas? Ben oui.
Alors j'espère que vous êtes tous en train de danser dans votre cuisine ou dans votre salle de bain en écoutant Sly and the Family Stone. En tout cas, je me souviens que dans le film consacré à Woodstock, Sly and the Family Stone jouaient au milieu de la nuit, qu'ils étaient vêtus avec des vêtements absolument extraordinaires.
Oui, un peu Las Vegas. Oui.
Las Vegas, avec des lanières en cuir blanche et qu'ils avaient l'air d'anges qui allaient s'envoler vers le ciel tout en jouant comme des possédés. Oui, que s'est-il passé le 15, le 16 et le 17 août 1969 à Woodstock? Et replaçons cet événement civilisationnel dans les circonstances politiques de l'Amérique. Mishka.
Ah, c'est vaste. Ça intervient évidemment à un moment clé de l'histoire des États-Unis. C'est vraiment le moment où la guerre au Vietnam devient une très 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 sale guerre, où les divisions raciales qui était déjà violent dans les années 60, prennent un tour presque de guerre civile, et où l'idéal justement de paix, d'amour et de communion des hippies est très malmené par justement toute cette montée d'angoisse, de violence, de tension. Et c'est une sorte de parenthèse enchantée qui va avoir lieu à la fin du mouvement hippie. De toute façon, c'est pas vraiment l'événement hippie par excellence, c'est plutôt l'événement qui va clore, c'est la période hippie.
Alors Martin Scorsese, dont vous rapportez les propos dans votre ouvrage, dit que c'est l'événement transcendant de sa vie. D'ailleurs, il faut rappeler qu'on peut voir en ce moment même le film de Martin Scorsese est sur Bob Dylan. Bob Dylan,
qui était une merveille.
Qui est une véritable merveille, Maud le dit aussi. Mais Bob Dylan, qui n'a pas souhaité s'associer à cet événement de Woodstock, alors que tous les organisateurs pensaient que si Woodstock pouvait exister, ça serait parce que Bob Dylan viendrait. Non, il n'est pas venu.
Mais il faut se rappeler
et Woodstock a existé.
Il faut se rappeler aussi le rôle presque divin qui était celui de Dylan à l'époque, était comme un
divin,
c'était comme un oracle. C'est-à-dire que chacune de ses paroles était guettée, chacun de ses actes était commenté, et c'était un peu comme, vous savez, ce milliardaire Howard Hughes qui s'était retiré. Donc, en fait, son silence intriguait. Il y a des gens qui se rendaient même en pèlerinage vers la maison où il habitait, qui avait envahi son jardin, qui certains étaient même montés sur le toit. Il en parle d'une manière extrêmement drôle dans ses mémoires qui s'appellent Chroniques. Et donc, les organisateurs pensaient que organiser un festival en plein air dans cette région de Woodstock, qui traditionnellement était une région très liée à la bohème artistique, c'est pas tellement loin de New York, c'était déjà le retour à la nature, la fuite loin de la civilisation industrielle, de la pollution, etc. Et Dylan est dans une phase de sa vie où il s'était d'une certaine façon retiré, il avait fondé une famille, il avait eu 4 enfants, et il avait même changé de voix, il s'était arrêté de fumer, et il chantait des chansons douces, country, avec une voix de crooner, et il y avait des gens, ils disaient, mais rendez-nous Dylan, il nous a trahis, etc., c'est scandaleux, bon. Et alors, les organisateurs s'étaient dit, mais quand même, on guettait, on se dit, c'est pas possible, il va retrouver sa propre vérité, il va à nouveau nous avoir quelque chose à nous dire. Et donc, ils avaient pensé qu'en organisant un festival à Woodstock, ça le ferait venir. Mais lui, il a flairé le piège et il a dit, non, moi je veux pas me retrouver au milieu de tous ces dingues, pas question. Voilà.
Savez-vous, Mishka, que vous avez d'illustres prédécesseurs dans votre genre?
C'est-à-dire?
À France Inter.
Vous voulez parler vous voulez parler quoi de ceux qui commentaient Woodstock il y a 50 ans?
Oui, eh bien écoutez Claude Villers, c'est une archive INA du 16 juin 2015.
Ah. J'avais proposé Woodstock et Salbert me dit « Oh là, ça intéresse personne, ta musique de nègre, enfin, etc. » Et puis, donc, en plus, de toute manière, t'es de permanence à domicile avec le décalage horaire. J'avais la voiture de la maison, une des voitures de la maison, mon Agra, et j'attendais chez moi.
Et puis, vous y êtes allé?
Je regarde la télé et je vois les gens qui font la queue à Woodstock, les voitures, les embouteillages monstres. Et à ce moment-là, j'ai le téléphone qui sonne, j'ai un copain qui était photographe, enfin, qui l'a toujours d'ailleurs, qui me dit « t'as vu un peu la télé et tout ?» Oui. Et si on allait à Woodstock? Je dis « mais je peux pas, je suis de permanence. » Et j'ai désobéi à mes chefs et je suis parti avec lui à Woodstock. Puis le lundi, je suis rentré. Et je me suis, j'ai dû fermer les yeux, mais un quart de seconde. Heureusement, on roule pas trop vite. Et avec la voiture de la maison, de l'ORTF, j'ai heurté le rail central. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je vais me faire engueuler et tout. Je vais te virer. Et je suis arrivé dans le bureau. Et Salbert me dit, mais où t'étais, etc. Bon, et tout. Et il me dit, Paris, arrête pas d'appeler. Ils veulent que je fasse un papier sur Woodstock, parce que... Et je dis, j'étais à Woodstock. Quoi? Alors, tu me donnes tes notes, etc.
Et vous aviez du son? Vous aviez
des interviews? J'avais du son, il y avait tout ce qu'il fallait. Et je lui dis à un moment, mais vous savez, la voiture? Il me dit, on n'en a rien à foutre de la voiture. On va la changer, c'est tout.
Alors, nous venons d'entendre Claude Villers, c'était au micro de Philippe Vindel.
Ah, oui.
Il a été à Woodstock, oui. Mais pas vous, parce que vous aviez 11 ans.
Mais quand même, oui, non, j'étais né, mais bon, j'étais quand même petit.
Mais vous auriez pu y aller avec vos parents, hein. Il y en avait qui
pas. Vous pensez que ça les intéressait, famille. Vous rigolez. Et ma mère, dès qu'elle voyait un chevelu, elle trouvait ça horrible et grotesque. Donc non, mais
c'est peut-être mieux que vous n'y ayez pas été, parce que vous avez pu faire.
J'ai vu le film.
Oui, on a
comme
tous
beaucoup,
vu
on
le
a tous
film.
Vu le film. Ouais.
Mais oui, mais vous avez pu aussi en devenir l'historien.
Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est très marrant, parenthèse. Je voudrais quand même que Maud puisse raconter
oui,
un
oui,
peu.
Oui, on va faire la faire parler.
Donc je vais être
mais elle
succinct.
Était pas Woodstock.
Oui, non,
elle était même
non,
pas
je vais être succinct. C'est que, vous savez qu'il y a une archive que moi je vais utiliser dans la série sur Woodstock qu'on va faire cet été là sur Inter. Eh bien, c'est Le Masque et la Plume. Donc il y a Jean-Louis Borry et Michel Aubryant. Je sais pas si vous voyez qui c'était. C'était un critique de l'Aurore. Et alors, il y a Michel Aubryant qui dit, mais très sérieusement, quand même, c'est très inquiétant de voir cette masse de jeunes qui se lèvent d'un seul homme, parce qu'il y a ce prêcheur fou qui est Sly Stone, et on a l'impression que c'est Nuremberg qui recommence et les meetings nazis. Les nazis. Ah ouais.
Alors il faut que vous nous expliquiez, puis Maud, on va lui demander ce que Woodstock et ce que ce nom signifie pour elle. Ouais. Il faut quand même que vous nous expliquiez aussi que par rapport à la naissance de Woodstock et de ce qui s'est inventé entre toutes ces personnes, ces centaines de milliers de personnes qui se retrouvaient assemblées pendant 3 jours et 3 nuits en pleine campagne.
Oui, alors que rien de tel n'avait jamais existé avant.
La plupart venaient quand même des milieux un peu favorisés, la plupart étaient des étudiants. Oh si. Et expliquez-nous l'influence et l'importance de la drogue. Pas seulement consommé à Woodstock.
Mais chez les musiciens.
Pas seulement chez les musiciens, mais administré par les autorités universitaires qui faisaient des protocoles sur les étudiants parce que ça aurait pu être bon pour le mental de tous les Américains.
Absolument. Mais
c'est quelque chose qui n'est pas connu.
Mais il y a eu un programme à l'université de Palo Alto qui se trouve donc dans la région de San Francisco. Il y a eu en effet des étudiants qui se sont portés volontaires comme des cobayes pour tester effectivement cette nouvelle drogue qui c'était le LSD dont on pensait qu'en effet qu'elle pouvait avoir une vertu collective. Après, moi j'y étais pas, mais ça effectivement, ça a été à la source du rock psychédélique, parce que ces jeunes, certains connaissaient des musiciens, étaient musiciens eux-mêmes, et donc ça a créé un mouvement incontrôlable. Incontrôlable. Et il y a eu évidemment des catastrophes. Il y a eu des.
Pas tellement par rapport à cette concentration d'êtres tous tendus par le même désir.
Alors,
de rock.
Vous parlez de Woodstock.
Oui.
Ah non, Woodstock, non. C'était un miracle que ça se soit passé de manière pacifique. C'est comme disait la chanteuse de Jefferson Airplane, Gloucester, c'est un miracle que les gens ne se soient pas entretués à coups de couteau parce qu'il n'y avait rien à bouffer. Enfin, il y avait
Il y a eu des coupures d'électricité.
Mais il y
avait
des gens qui ont failli mourir, des musiciens qui ont failli mourir à cause de court-circuits. Il y avait de la flotte sur le truc, ils ont failli recevoir des tours de baffles sur la tête, enfin...
Le film le montre bien, jamais eu de panique, hein.
Non, mais le gouverneur de l'État de New York, Nelson Rockefeller, a même pensé envoyer la garde civile à un moment et faire évacuer les gens, et quand ça s'est terminé, il y avait des reporters qui étaient allés au Vietnam qui ont dit que c'était la même chose, qu'on avait l'impression qu'il y avait eu la guerre.
Alors, Maud Berthomier... De quoi Woodstock est-il le nom aujourd'hui pour vous? Vous qui avez quel âge?
Aujourd'hui pour moi. Moi j'ai quel âge?
Oui.
J'ai 37 ans.
Vous êtes vieille, hein?
Ouais, voilà.
Donc Woodstock, c'est votre grand-mère qui vous en a parlé ?
Non, non. Jan Uhelski, dans l'ouvrage, c'est la seule femme de l'ouvrage. Mais quelle,
oui,
quelle femme ?
Voilà. J'ai vu qu'il y en avait qu'une. Hein.
Voilà, voilà. Qui en parle très bien, je crois, en disant, voilà, en parlant de la nation Woodstock. Voilà, c'est plus qu'une génération, c'est vraiment cet esprit de communauté qu'on... Voilà, qu'on caricaturise un peu aujourd'hui, enfin comme si, voilà, par le biais des visages hippies. Mais je crois que vraiment ça a signifié quelque chose, quoi. C'est-à-dire que dans ce contexte politique très très violent, avec Nixon, avec la guerre du Vietnam, trouver des gens qui avec qui se regrouper, ça avait vraiment un sens très très fort. Et la drogue aussi, elle en parle très bien dans l'entretien. Pour elle aussi, avait une signification sur l'état d'esprit, sur sur le lien que ça pouvait aussi avoir par rapport à la créativité et à la musique aussi en général.
Et par rapport au son de Woodstock, ce son qui a été inventé, puisque comme le dit Mishka dans son ouvrage en début. Il explique que la plupart des concerts étaient assez peu sonorisés, oui. Et qu'il était très rare de pouvoir entendre très haut et très fort,
oui.
Le son du rock,
oui.
Qu'il nécessite dans son essence même musicale. Est-ce que Woodstock a été pour vous, Maud Berthommier, un moment où on a inauguré un autre rapport de notre corps au son ?
Oui, alors le son était pas très bon et puis mais très fort et voilà, et quand la musique passait sur les ondes, elle passait très peu de temps, donc il y avait quand même un accès encore un peu difficile des fois à cette musique-là, et donc tout ça passait. La presse avait un rôle à jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir accès au nom des groupes, à ce qui se faisait grâce à tous ces auteurs qui écrivaient sur la musique, qui poussaient à acheter acheter des albums, etc. Donc ça avait vraiment cette force-là de médiation, en fait, par rapport à cette culture.
Alors on se fait de la tribu rock des images qui ressemblent un peu à des clichés, je m'en excuse. on pense que les princes et les princesses du rock, et vive Janis Joplin, à qui vous rendez hommage dans cet ouvrage, sont des êtres qui sont différents de nous, tellement ils sont intenses et animés d'un magnétisme extraordinaire. C'était son cas. Oui. Mais à Woodstock, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui sont comme des ploucs et qui, et qui n'ont pas honte d'aller chanter. Ils chantent plutôt bien, mais ils sont pas tous sexy, ils sont pas tous érotiques, ils sont pas...
Pas du tout. Mais ce qui est, vous savez, prenez l'exemple de Joan Baez. C'est très intéressant. Vous savez que, enfin, vous savez ou ne savez pas, mais que Joan Baez a été élevée dans la foi des Quakers. Et donc, elle a ce côté, animation paroissiale, si vous voulez. Donc, chanter ce qu'elle a à chanter, qui est quand même des chansons socialement conscientes, politiquement engagées, etc., consiste à être au milieu des autres. Et avant de monter sur scène, en fait, elle a vu qu'il y avait une petite scène annexe qui était accessible à ceux qui n'étaient pas dans l'enceinte même du Festival de Woodstock. Enfin, il n'y a plus d'enceinte parce que les barrières ont été enfoncées. Mais enfin, disons qu'elle a commencé à chanter alors que son manager ne savait même pas où elle était, au milieu des gens, gratuitement, comme ça. Et on a dû vraiment la tirer par la manche pour la faire monter sur la scène. Et ce que vous regardez qui est passionnant avec Woodstock, c'est que vous n'avez pas de sponsor, vous n'avez pas de bannière publicitaire. Vous n'avez pas de gens avec
des firmes,
vous n'avez pas de
labels,
de gens de communication, vous n'avez pas de gens qui sont là à maquiller les il n'y a pas d'entourage qui est là à faire la barrière avec des passes de toutes différentes couleurs ou Dieu sait quoi. C'est-à-dire que parfois, vous savez, il y a même une chanteuse, cette pauvre Mélanie, qu'on a prise vraiment au dernier moment parce que de toute façon, comme les groupes n'arrivaient pas, ils étaient bloqués par les embouteillages et tous ne pouvaient pas monter dans des hélicoptères, donc on a fait monter sur scène des gens qui se trouvaient là, qui n'étaient même pas à l'affiche. Et donc Mélanie, la pauvre, donc, elle s'est retrouvée catapultée sur scène devant des centaines de milliers de personnes, alors qu'elle n'avait jamais chanté que dans des bars à New York devant 200 personnes au maximum. Elle était venue avec sa maman, et les organisateurs avaient carrément prévu de la faire dormir dans une tente, sous une tente dans les bois, où le sol était pourri. Et même quand elle a voulu revenir, on lui a dit, mais on ne vous connaît pas, vous êtes qui, etc. Enfin, ça a été un chaos pas possible, quoi.
Mais ça, c'est un...
lobotomie.
Pardon, ça c'est un héritage aussi du festival de Newport. Toute l'idéologie folle qui veut qu'il n'y ait pas de démarcation réelle entre la scène et le public. Voilà, le musicien est sur scène, il est dans la foule, dans le public avant de monter, il redescend juste après.
Et étrangement, c'est ce qu'on a retrouvé dans le punk.
Voilà, exactement.
Alors, on va pas parler de punk ce soir, ça sera pour une prochaine émission. Woodstock a fécondé beaucoup les imaginaires, pas seulement en termes de musique et de découverte musicale et d'écoute musicale, mais aussi en termes de littérature, et notamment Lydie Salvert, dont vous avez peut-être lu l'admirable livre. Je vous propose de l'écouter, elle va parler de la façon dont Jimi Hendrix a interprété l'hymne national à Woodstock, c'était le 18 août 1969.
J'étais bouleversée dès que je l'ai entendu, parce que j'entendais à la fois, c'est ça qui m'étonne toujours, quelque chose de l'ordre de la mélancolie, de la douleur, vous l'avez dit, et en même temps une énergie, une puissance qu'on n'entend plus que très très rarement, qui est exceptionnelle, et une puissance contagieuse, et une puissance agissante, en tout cas je l'espère encore. Moi elle me redonne de la force, c'est une musique dont l'énergie me traverse encore aujourd'hui, 40 ans après.
Que s'est-il passé avec Jimi Hendrix, Maud Berthomier?
Je pense que c'est là où on peut vraiment comprendre que la musique peut être un moteur d'écriture et d'inspiration très 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 fort. Et je crois que ces auteurs ont eu la chance de voir naître cette musique et d'écrire sur elle en même temps. Et je pense que c'est vraiment cette simultanéité entre un nouvel art en fait, on peut le dire comme ça, et une nouvelle presse a fait que les deux communautés aussi se nourrissaient l'une et l'autre. C'était une vraie camaraderie. Hendrix allait dans les bureaux du premier fanzine rock américain, et inversement Peter Guralnick allait voir les bluesmen dans les coulisses. Enfin, il y avait vraiment une circulation d'énergie et de créativité.
C'est ce que montre remarquablement le livre de Maud, qui est en fait une série de conversations très approfondies avec ceux qui ont vraiment inventé le genre de la... pas seulement de la critique rock, il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais ce sont des témoignages de gens dont la vie a été bouleversée par la découverte de cette musique et dont le destin a complètement changé et qui ont continué à puiser dans cette musique comme une énergie pour écrire, pour avancer, pour créer, pour faire quelque chose. Et vraiment, moi, je me reconnais comme le petit frère de ces gens-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça m'a...
C'est vrai, alors, Maud Berthomier, que dans votre ouvrage, vous rencontrez donc des critiques dont la vie a basculé parce qu'ils ont fait de leur propre métier leur passion, la plus personnelle, la plus intense, et on sent qu'ils vivent rock, qu'ils dorment rock, qu'ils rêvent rock, qu'ils aiment rock, qu'ils appartiennent à une planète qui est très particulière et où un sentiment d'intensité manifestement, qui peut d'ailleurs les mener à une grave mélancolie et voire à une approche de la mort, parce que votre livre est très gothique, enfin, il comporte aussi des zones noires et assez vénéneuses. Comment vous expliquez ce basculement de vie qu'implique l'amour du rock?
Mais c'est étonnant parce que la question de fond, c'est comment on écrit sur la musique, quoi.
Mais ils les écrivent, mais ils vivent.
Et ils la vivent aussi, oui. Mais justement, ils la vivent pas tellement sur... c'est pas une analyse musicologique, c'est vraiment aussi des portraits des musiciens. Voilà, des rencontres qu'ils font. Et je crois que la interview qui ouvre le livre est très programmatique parce que Peter Guralnick est comme un peintre. Il fait vraiment des profils des musiciens et il explique que pour lui, il a besoin d'interviewer tous ces bluesmen, d'interviewer toutes les personnes qui ont été liées à cette musique, parce que pour lui ça passe par des personnalités très 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 fortes, et c'est ce qu'on va retrouver aussi avec des auteurs beaucoup plus tard, avec Nick Kent, etc., des gens qui sont qui ont une démarche vraiment très empathique aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de faire cette musique, quoi, et en quoi le fait de la recevoir est si fort aussi, inversement.
Il faut dire aussi, Maud Berthomier, qu'ils inventaient un genre et que la plupart d'entre eux, quand ils ont débarqué dans les rédactions des grands journaux américains comme le New York Times en disant « moi je voudrais faire critique rock », et les chefs disaient quoi, critique quoi?
Oui, le terme n'existait même pas en fait.
Critique quoi?
tout était possible, ce n'était pas une activité rémunérée, c'était plus un hobby, une passion qui est devenue une activité voilà, au fil des années. Mais il y a, voilà, c'était vraiment une sorte de terrain vierge où tout était possible, tant dans la forme que dans le fond. Chacun aussi avait ses musiques de prédilection, et un fanzine comme Crodaddy, qui est l'un des premiers fanzines rock américains, n'interdisait pas cet éclectisme. Donc c'était vraiment un forum d'expression très très large, et voilà.
Je voudrais que vous nous parliez de Richard Meltzer, parce que c'est un personnage absolument fascinant, c'est une icône de la civilisation américaine aujourd'hui. Il faisait de la philosophie, sa vie a basculé quand il a commencé à rentrer en rock.
Oui. Le rock, il n'y avait que ça qui comptait pour lui. Il était étudiant en philosophie et il a eu une approche assez étonnante, voilà, de comparer Aristote à, voilà, aux musiciens de l'époque. Et à un moment aussi, sa vie a basculé. Il a décidé que, voilà, le rock était devenu trop tourné vers les stades. Woodstock était déjà passé. Donc pour lui, c'était déjà fini même avant, quoi, même 68. Et donc il y a une espèce de scission aussi dans sa vie où il passe à la littérature après, à autre chose, et il s'ouvre à un éclectisme. Après, il y a des auteurs comme Lester Bangs qui sont restés sur le rock, quoi. C'était vraiment une religion pour eux. Et là, pour le coup, son style d'écriture est aussi très différent. C'est vraiment une langue qui martèle les mots, et on entend presque la musique. Donc, on a vraiment des visages très, très différents au sein du recueil, avec Gurlick qui est plus un peintre, comme je le disais, ou Toshiz, un poète. On a une approche beaucoup politique avec Dave Marsh qui vient de Détroit. Yann Uelski est la seule femme, voilà, et qui a une approche beaucoup plus féministe, je dirais. Mais voilà, tout était possible, et je crois que c'est ça, cette galerie de portraits qui nous permet de voir une vision du monde assez éclectique de cette époque.
Alors, foin de la nostalgie, quand même, Mishka.
Oui.
C'est vrai qu'on va fêter le 50e anniversaire de Woodstock, oui. C'est vrai que ça a été un point très important de notre 20e siècle, mais et vous allez le restituer dans la grille d'été de France Inter pendant tout l'été.
Oui.
Mais le rock demain.
Oh bah le rock demain, c'est comme celui d'aujourd'hui. Je sais pas. Vous savez, le rock, il s'est dilué dans tout d'autres genres. Il a absorbé beaucoup de choses. Et puis maintenant, à son tour, il est absorbé. Enfin, c'est plus la musique dominante aujourd'hui. De toute façon, c'est comme le jazz. Le rock, c'est une musique patrimoniale. Mais
pas seulement.
Pas seulement, mais il y a bien des gens jeunes qui font du jazz aussi. Donc c'est pas pour ça que c'est pas mort, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que comment vous expliquer ça? L'essentiel est déjà fait derrière nous. Enfin, c'est une histoire qui s'est passée.
Vous en êtes sûr?
On n'est jamais sûr de rien, mais je veux dire, c'est le rock en tant que tel, oui, a joué son rôle historique. Maintenant, il y a d'autres musiques. Enfin, c'est quand même la musique électronique. Enfin, d'ailleurs, je vais passer tout à l'heure, mais c'est pas du tout. Mais enfin, je veux dire, elle est quand même plus importante aujourd'hui que le rock. J'ai l'impression.
Et l'amour. Vous terminez votre ouvrage, Mishka Assayas, en redonnant la parole à Scorsese,
oui,
qui dit. C'est la seule fois de ma vie, à Woodstock, où j'ai entendu parler d'amour de façon sérieuse, comme d'une force capable de combattre la cupidité, la haine et la violence.
Oui, écoutez.
Et si le rock, c'était pas la religion de l'amour?
Mais je le crois profondément, dans le sens où je reste. Vous savez, quand je passe une chanson qui a été enregistrée il y a 50 ans, pour moi, ça n'a rien à voir avec la nostalgie. C'est-à-dire l'apitoiement sur une époque qui aurait été meilleure. Pas du tout, ça se passe maintenant. C'est quand vous allez voir un tableau, vous allez voir, je sais pas moi, un tableau, un portrait de Fouquet, ou je sais pas. Parfois, on a l'impression que ça vient d'être peint. Vous n'avez pas l'impression que vous allez voir un truc qui a été fait il y a 500 ans et que c'est intéressant parce que ça a été fait il y a 500 ans. Je veux dire, c'est intéressant parce qu'il vous parle hic et nunc, quoi, ici et maintenant. Donc, pour moi, la musique, c'est exactement la même chose. Et je pense, dernière chose qui est importante par rapport à ce qu'écrit Maud, qui est vraiment un livre absolument captivant, et je pense pas seulement pour les spécialistes, parce que ça raconte justement l'importance historique, politique et sociale qu'a eu l'écriture sur le rock, c'est que, finalement, j'en oublie ce que je voulais dire. oui, que tous ces gens-là ont été à la fois des missionnaires et des mystiques. un peu comme ce que montre Scorsese dans son documentaire sur Bob Dylan. Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature. Oui. On peut en discuter, c'est vrai que c'est un tout à fait bizarre, mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que il est envahi par une force qui le dépasse. C'est un héros. Et les gens qui ont écrit ont reçu de la chaleur et des flammes et de l'énergie de ce qui a traversé Bob Dylan.
Oui, je crois qu'il ne faut pas trop...
Un dernier mot.
Oui, je crois qu'il ne faut pas trop historiciser cette période. Et les auteurs en parlent parlent de leur jeunesse comme si c'était encore
comme
aujourd'hui.
C'était vivant.
Voilà.
C'est vivant.
Et voilà, ce qui est extrêmement important, je crois, à entendre.
Et l'amour.
Et l'amour aussi, beaucoup de complicité et de bienveillance de la part des auteurs, en tous les cas pour mon projet. Et je trouve que...
Et c'est merveilleux, la générosité dont ils ont fait part en parlant à Maud, la face, tout ce qu'elle est arrivée à tirer d'eux. Moi, je trouve ça exemplaire. Vraiment, elle est arrivée à faire des entretiens qui sont vraiment définitifs.
On va prendre au mot ce que dit l'un d'entre eux qui vous a confié son itinéraire et sa passion, c'est Peter Guralnik. Il vous dit, Maud, prendre toujours la musique au sérieux. Il a raison. Merci beaucoup, Maud Berthommier.
Merci.
Votre livre s'intitule « Encore plus de bruit, l'âge d'or du journalisme rock en Amérique par ceux qui l'ont inventé ». Il vient juste de paraître aux éditions Tristram. Et puis le livre de Mishka s'intitule « Woodstock, Three Days of Peace and Music ». Je ne sais pas chez qui il est édité.
GM Édition.
GM Édition, il est très beau. Il est 20h56. Vous écoutez France Inter. Alors, c'est les Liminanas qu'on adore, mais c'est vous qui allez faire le générique, Mishka.
Alors, c'est moi qui fais le générique. Alors, c'était l'épée des Liminanas. L'heure bleue a été réalisée par Lilian Alôme, que je salue au passage, on a bien bossé ensemble. Préparée à Élodie Royer, Adrien Nazelli, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy, avec les conseils musicaux de Jean-Baptiste Audibert et avec la technique ce soir, Grégory Wallon. J'ai des bons souvenirs aussi. Voilà.
Et après le prochain journal d'information, vous retrouverez Mishka.
Mais oui, voilà.
Mishka, il est là. Heureusement que je suis.
C'est de la musique électronique, mais alors vraiment canal historique. C'est-à-dire, c'est des trucs vraiment.
C'est pour les vieux comme moi.
Mais pas du tout. Seulement, vous n'êtes pas vieille. Mais enfin, c'est arrêté avec ça.
Arrêtez.